RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Depuis plusieurs années, les EHPAD en France sont au cœur d'une série de controverses et de crises de confiance. Les témoignages de familles, les enquêtes journalistiques et les rapports d'organismes de contrôle ont mis en lumière des dysfonctionnements majeurs, maltraitance, manque de personnel, conditions de vie déplorables et gestion financière douteuse. Des révélations qui ont suscité une profonde inquiétude et une perte de confiance assez générale envers ces institutions, pourtant essentielles pour la prise en charge de nos aînés. Alors face à cette situation alarmante, une question cruciale se pose, qu'on va évoquer ce matin. Est-il possible de rétablir la confiance dans les EHPAD? Et si oui, comment faire? On va faire le point avec nos invités. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous avez un proche dans un EHPAD? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a peut-être changé depuis plusieurs années? Racontez-nous votre expérience. Et puis même question, hein, si vous êtes employé dans un EHPAD, on a envie de vous entendre au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et notez que dans la seconde partie de l'émission, on vous présentera des initiatives qui existent en France pour préserver les liens relationnels dans les EHPAD. Ce sera à 10h. En attendant, pour discuter avec nous dans cette première partie, je vous présente nos deux invités ce matin. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Je pense donc j'agis. Vous êtes sociologue, spécialiste de la vieillesse et directeur scientifique du pôle santé de l'INSEC. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et je vais citer le dernier. Et si les vieux aussi sauvaient la planète? Il est sorti cette année chez Michalon. Il va falloir nous expliquer ce titre. Hein. Pour vous, déjà, c'est un livre plutôt lié au climat. Il n'y a pas de guerre climatique entre les générations?
Oui, c'était un peu ça. J'entendais beaucoup que tous les jeunes seraient de formidables écolos et que, en revanche, tous les vieux seraient d'atroces pollueurs. Et en regardant de manière un peu plus précise, évidemment, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a heureusement des jeunes qui sont très, très soucieux de cette question, mais finalement, ils sont plutôt minoritaires et en termes de comportement, ils ne sont pas spécialement plus attentifs que ça. Et puis, il y a aussi des gens beaucoup plus âgés qui, ou par mode de vie habituel, ils terminent leur assiette, ils terminent leur repas, et d'autres qui ont aussi pris conscience, qui ne le savaient pas quand ils étaient plus jeunes, mais qui aujourd'hui en ont pris conscience. Donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, sur un certain nombre de sujets, les deux transitions, la transition écologique et la transition démographique, peuvent aller ensemble. On pensera à l'habitat, quand on adapte l'habitat pour éviter que les gens tombent, on peut aussi l'adapter pour éviter les passoires énergétiques, par exemple. Quand on travaille sur les mobilités, pour éviter, par exemple, qu'une personne soit toute seule dans sa voiture, on s'aperçoit qu'on peut aller aussi chercher des gens plus âgés et avec des plus jeunes pour les accompagner à tel ou tel endroit. Et donc, finalement, assez souvent, surtout sur l'aspect le plus local qui soit, en fait, assez souvent, les deux transitions peuvent se mener de front. Et je crois que c'est plus intéressant de parler de coopération entre les générations plutôt que parler de guerre des générations.
En prenant le climat comme exemple, enfin l'écologie comme exemple dans ce livre, c'est une manière aussi d'approcher les véritables enjeux liés à la démographie en France?
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs parce que sur les deux, que ce soit le climat ou que ce soit la démographie, on a eu plutôt tendance à regarder ailleurs, pas du tout s'y préparer. Alors le climat, le GIEC et autres nous alertaient quand même depuis de longues années. Et sur la démographie, il suffisait de regarder les chiffres pour savoir que y avait un vieillissement de la population et que même à partir de 2026, c'est-à-dire demain, il y aura une croissance très très forte des plus de 80 ans. Or les plus de 80 ans, c'est aussi souvent des gens qui ont, ça fait lien avec l'émission, c'est souvent des gens qui peuvent dans certains cas avoir des problématiques de santé beaucoup plus fortes, de perte d'autonomie beaucoup plus forte et avoir besoin par exemple d'être accueillis dans les maisons de retraite médicalisées. Mais plus largement, c'est aussi des gens qui vont être plus sensibles à des distorsions climatiques. Quand vous avez 85 ans et qu'il y a 15 degrés qui changent d'un jour à l'autre, c'est plus rude souvent à vivre que quand vous en avez 20, par exemple. Donc c'est aussi que dans les deux cas, il y a le refus de voir l'obstacle, d'une certaine manière, dans les deux cas. Et dans les deux cas, il y a l'idée que finalement, on pourrait agir sur les deux en même temps ou de manière concertée.
Merci beaucoup Serge Guérin de nous accompagner dans cette émission. Notre deuxième invité, c'est vous, Tsingusine Bonjoani. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre participation. Merci également à l'équipe de Lille qui vous accueille en studio. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille, membre du CLERCE, le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Et vous êtes également chercheuse affiliée au CEET, le Centre d'études de l'emploi et du travail. C'est un livre qui avait fait l'effet d'une bombe. Négligence, cas de maltraitance, tous les regards s'étaient tournés en 2022 vers les EHPAD, hein, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fossoyeurs, c'était le titre de ce livre, Révélation sur le système qui maltraite nos aînés, de Victor Castanet chez Fayard, qui avait d'ailleurs remporté avec ce livre le prix Albert Londres. Souvenez-vous, l'auteur s'était plongé dans les secrets du leader mondial des EHPAD et des cliniques Orpea, qui s'appelle maintenant Emeis. Il pointait du doigt de multiples dérives et ce sont surtout les répercussions finalement qui vont nous intéresser ce matin, qui ont été très importants puisque ça avait vraiment remis sur la table peut-être les contradictions entre la recherche de profit et la qualité de soins dans les EHPAD. En réaction, le gouvernement avait lancé des enquêtes administratives. Est-ce que vous pensez, Tsinge, qu'il y a eu un avant et un après ce livre ?
Alors, en effet, ce livre a plutôt, je dirais, ce livre a mis en exergue qu'en fait, toute une série de problématiques déjà existantes, plutôt des problèmes structurels, dans ces secteurs-là. C'est-à-dire que, en effet, dans ce livre-là, donc, ils ont surtout critiqué le système, vraiment, ce système, enfin, ces établissements privés à but lucratif. Mais en termes de conditions de travail, en termes de relations entre les salariés, les familles et les résidents, en termes vraiment de difficultés de conciliation entre vie familiale, vie professionnelle pour les travailleurs, en fait, tous ces problématiques-là, c'est pas seulement des questions qui concernent les établissements privés à but lucratif.
Oui.
C'est-à-dire qu'en effet, il y a un vrai problème à ce propos. Alors, si vraiment, je m'éloigne de votre question. En fait, si je dois vraiment répondre à votre question, je dirais oui. Ce qui a vraiment changé, c'est les représentations sociales des EHPAD. C'est-à-dire ça encore noirci. Ce qui joue encore, c'est sur l'attractivité des métiers. C'est-à-dire que maintenant, les travailleurs ont un peu honte et beaucoup de mes enquêtés ont eu un sentiment d'injustice. C'est-à-dire, pendant le Covid, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé, ils ont fait énormément d'efforts pour les établissements, oui, pour les personnes âgées et pour leurs familles. Alors, ils ont l'impression que du jour au lendemain, ils sont devenus des maltraitants. Ils ont du mal vraiment de comprendre d'où viennent ces critiques-là et pourquoi il y a ce changement radical. Donc, ça a beaucoup joué sur l'envie de rester ou l'envie de partir, quitter le secteur. Donc, en ce moment, donc, en fait, ce qu'on constate, c'est des difficultés de recrutement de plus en plus importantes.
C'est une belle entrée en matière. Je vous remercie beaucoup, Tsinge Nbouane-Johanny, pour ces premiers mots. Serge Guérin, quel est votre regard à vous ? Je trouve ça intéressant, quand on parle de représentation sociale des EHPAD. Il y a eu un changement, il y a eu une bascule ?
Alors, je crois que ça a surtout renforcé, oui, l'image qui est plutôt, les imaginaires sont plutôt négatifs autour des EHPAD, des maisons de retraite médicalisées. Ils sont négatifs à double titre, parce que c'est d'abord l'idée de se dire, si j'entre là, c'est quand même la dernière demeure avant le cimetière, hein, faut être très très clair. Donc évidemment, c'est quand vous rentrez en maternelle, vous savez qu'après, ça sera l'école primaire. C'est quand même plus positif, quoi. Donc il y a aussi cet élément-là. Deuxième élément, c'est que les gens y rentrent de plus en plus tard, donc de plus en plus fragiles, et donc de plus en plus en difficulté. Et donc là aussi, ça rejaillit sur l'image globale. Donc il y a d'abord cette question-là très très personnelle, quand on en est encore suffisamment conscient, suffisamment lucide, parce que rappelons que la majorité des gens qui rentrent dans ces établissements sont en difficulté, en bouleversement neurologique extrêmement important. Donc ils ont aussi une perception qui est très très biaisée par rapport à ça. Le deuxième élément, c'est que ça relevait aussi, je crois, une certaine mauvaise conscience. On n'est pas toujours très très, on n'a souvent pas le choix, mais parfois on est un peu dérangé soi-même de dire tiens, j'ai laissé l'un de mes parents dans ce lieu-là. Alors parfois on a des mots très très lourds. On va parler de placer les personnes, par exemple. Or il ne s'agit pas de les placer, il s'agit qu'elles soient accueillies dans des lieux qui sont faits pour ça. Donc il y a aussi cette notion de mauvaise conscience. Puis il y a une mauvaise conscience plus globale, c'est que quand même ces questions on les connaît et que il n'y a jamais eu, je sais pas moi, une manifestation pour mettre plus d'argent dans les EHPAD, par exemple. Ça n'a jamais été un sujet national très 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 fort. Et donc Victor Castanet, de ce point de vue-là, il a mis le doigt sur, oui, tous ces éléments. Et puis il y avait d'autres livres avant lui, c'est celui-là qui a connu un succès extrêmement flamboyant, mais qui du coup a aussi fait changer quelques éléments. C'est-à-dire qu'on a fait plus attention, il y a eu plus de missions de vérification et tout ça. Bon, voilà, on a trouvé un petit peu des réponses un peu en urgence. Mais globalement, derrière, et en effet, c'est pas du tout une question privée-publique. C'est oui. une question que les moyens, c'est une question que la qualité de la formation, c'est plein de questions autour de cela et qui ont été seulement pour partie réglées parce qu'elles sont aussi très très difficiles à changer. Parce que la question principale, par exemple, qui est la difficulté de trouver des personnes pour aller travailler dans ce secteur, reste extrêmement présente. Mmh. Et c'est vrai que certaines personnes en sont parties. Et que d'autres, en revanche, ils sont venus aussi. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, on avait fait une étude avec Ipsos sur les jeunes, les 16-20 ans, et leur envie d'aller dans ces secteurs. Globalement, 17% des jeunes, les métiers de la santé au sens large, les intéressent. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu spécialement de recul par rapport à cela. Et les gens qui travaillaient dedans, il y en a certains qui l'ont très très mal vécu de se retrouver accusés, alors que voilà. Alors, c'est comme partout, hein. Il y a des gens qui font super bien le boulot, des gens qui le font moins bien. Évidemment, tout le monde n'est pas, voilà. Mais globalement, les gens ont vécu quand même assez mal de se retrouver accusés, quel que soit leur poste oui. au sein de ces établissements.
Ce que vous dites, c'est que ce livre a mis en exergue donc des dysfonctionnements, quand même. On va pas passer toute l'heure, bien sûr, mais ça nous permet quand même de poser un peu le décor. Serge Guérin, ça a mis en exergue beaucoup de choses, mais ce n'était pas nouveau. C'est-à-dire qu'on savait déjà qu'il y avait des dysfonctionnements dans des EHPAD, par exemple.
Oui, et d'ailleurs la défenseuse des droits hein, disait que il y avait eu autant de sollicitations dans le public, dans le privé, dans l'associatif, et ainsi de suite. Donc on savait, on considérait d'ailleurs à raison, c'est-à-dire que c'était pas nécessairement, ça faisait pas système. Alors chez Orpea, visiblement, il y avait une organisation et des choix managériaux très très particuliers tout en haut. Et qui était hyper hyper malsain. Mais dans un certain nombre d'établissements, moi je peux en témoigner, hein, j'avais des étudiants qui prenaient des postes de direction ou qui étaient en stage ou en apprentissage, et globalement les retours étaient pas plus catastrophiques ou étaient intéressants comme il y avait dans telle ou telle association ou tel autre groupe. Mais globalement il y avait quelque chose en haut qui tournait vraiment très très mal et qui évidemment avait des effets plus bas. Mais ça a été vraiment montré par Castaner. Après ça a permis finalement peut-être d'avoir un regard plus précis, plus attentif à l'ensemble du secteur.
Tingusin Bonjouani, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je souhaite quand même revenir sur quelques éléments de base. C'est-à-dire, en France, les établissements privés à but lucratif ne représentent, enfin, parmi les EHPAD, ne représentent que 25% des établissements. C'est-à-dire, la grande majorité sont quand même des publics et privés à but non lucratif. Et puis, un autre élément, c'est en effet, quand on parle des financements, des dons de fonds et tout, ça ne concerne que la partie de l'hébergement. Sachant que quel que soit le revenu, quel que soit le statut juridique de l'établissement, il y a toujours des sections dépendance, des sections tarifaires de soins qui sont entièrement, enfin en grande, enfin les sections soins sont entièrement pris en charge par les pouvoirs publics, par l'argent de sécurité sociale, et la section dépendance donc cofinancée par les personnes âgées et par l'allocation personnalisée d'autonomie, donc l'argent public. Donc ça c'est vraiment des éléments de base, c'est-à-dire qu'en effet il y a des difficultés structurelles partagées par l'ensemble des établissements, quel que soit le statut juridique. Par exemple pour la partie de financement de soins, donc là en effet ce qu'on s'est rendu compte c'est il y a des difficultés financières. Par exemple il manque des soignants. Après c'est pas que une histoire d'argent, il y a aussi des difficultés de recrutement. Et on parle de problèmes d'attractivité dans ces métiers-là. Ce qu'on constate, par exemple, dans notre enquête, c'est il y a seulement la moitié, 50% des infirmiers en poste dans les EHPAD qui souhaitent continuer. Et la moitié qui souhaitent vraiment partir tout de suite, quitter les secteurs. Donc il y a toutes ces questions-là. Et puis, pour la partie, disons, dépendance, c'est le recrutement des aides-soignants, etc. Donc cette partie-là, c'est aussi très en lien avec le financement public. Donc derrière, il y a aussi vraiment une question politique, c'est combien d'argent qu'on a envie de mettre dans le secteur public, dans le secteur des EHPAD.
Et ça, on va en discuter parce que justement, l'État a annoncé une aide d'urgence, parce que la situation financière, voilà, c'est un vrai sujet aussi dans les EHPAD. L'État a annoncé 650 millions d'euros d'aide d'urgence qui sera partagée entre les établissements publics associatifs et les EHPAD privés. Yves nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Yves.
Oui, bonjour. Bonjour à vous tous.
Vous êtes à Grenoble, on vous écoute.
Oui, à côté de Grenoble, oui. Ben moi, je vous confirme, j'ai maman qui est dans une EHPAD. Et je vais vous dire, c'est du n'importe quoi. Ça change constamment de personnel. Le petit personnel, c'est quand j'avais le petit personnel, soignant tout ça, 3 mois, 6 mois. Les autres, bah, ils ont tellement marre qu'ils démissionnent, ils s'en vont. Vous voyez le directeur, vous demandez au directeur, parce que vous avez un kiné ici. Ah ben, je sais pas, s'il y a un kiné et tout. Vous êtes devant les affaires, ah oui, on a un kiné. Bref, ça, puis là, maintenant aussi, on reçoit des factures que maman n'utilise même pas. Ma soeur vient de m'appeler, je reçois une facture d'ambulance que maman n'a jamais utilisée. Elle dit, mais elle était, qu'est-ce que c'est que ça? La semaine dernière, c'était pour des médicaments, pour donner la part de médicaments, que maman ne prend pas. C'est vraiment du n'importe quoi, ces EHPAD. Hein.
Ça, c'est ce que vous constatez avec votre maman. Ça fait depuis combien de temps qu'elle est en EHPAD?
Trois ans, oui. Peut-être un peu plus, 3 ans, oui.
Et vous n'avez pas l'impression que depuis cet effet médiatique à 2 ans, il n'y a pas eu de changement?
Au contraire, au début, on pensait que ça allait très bien, on voyait le personnel, on arrivait bien. Non, au contraire, ça s'est dégradé. Il y a même des bénévoles qui viennent pour faire de l'animation, s'occuper et tout. Ils sont partis, ils en ont marre. Ils disent non, on arrête, on s'en va.
Eh ben, Yves, merci vraiment pour votre témoignage. Et là aussi, ça nous permet vraiment d'entrer un peu plus dans le sujet. Serge Guérin, je me tourne vers vous. Yves nous disait, voilà, en tout cas, il rencontrait une situation compliquée dans l'EHPAD où est placée sa maman. En nous disant, ça change de personnel en permanence. Ça, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur la question de l'emploi.
Oui, alors, si on prend ce cas-là, alors on ne le connaît pas plus que ça.
Hein. Oui, tout à fait.
Mais un directeur qui ne sait pas s'il y a des kinés chez lui, il y a un sujet. C'est-à-dire que là, le premier sujet, c'est le directeur. Si c'est vrai, il y a un problème avec le directeur. Normalement, évidemment qu'il sait. Là, ça fait partie de son job premier. Je connais les effectifs, j'ai des problèmes. Parfois, le premier métier le matin, c'est de pallier le fait que certaines personnes ne viennent pas, parce qu'il y a un absentéisme, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le job premier, c'est celui-là, c'est les ressources humaines. Donc, et en effet, il y a des réalités où on a du mal à trouver, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une vraie réalité qui rajoute, puisque ceux qui restent, c'est comme souvent, hein, ceux qui restent, ils font le job, ils compensent ceux qui ne sont pas là. On a ça dans plein de secteurs. Voilà, donc là, il y a vraiment un problème, a priori, sans évidemment connaître quoi que ce soit de ce cas, il y a a priori un problème déjà de management, et il y a un problème réel, récurrent, de plein d'endroits, qui est celui de, on n'a pas suffisamment de personnel, oui. On ne trouve pas suffisamment de personnel, et assez souvent, il y a en effet un taux d'absentéisme assez, enfin très très élevé, qui s'explique pour plein de raisons, bonnes et mauvaises. Donc ça, c'est vraiment une question absolument majeure. Ensuite, il y a la problématique aussi que ces lieux finalement ont à la fois changé et pas changé. C'est-à-dire qu'ils vont changer parce qu'on fait un peu plus attention, parce que dans certains cas, quand même, l'État est allé mettre un peu son nez. Encore faut-il qu'il en soit capable, encore faut-il qu'ils aient les équipes et qu'ils aient la compétence pour comprendre comment ça se passe. Si on se contente juste de regarder sur pièce, c'est pas du tout la même chose que si on passe du temps dans l'établissement. Donc il y a aussi, et puis, facile aussi être en surplomb à dire, ah, c'est pas bien ce que vous faites. Faut aussi voir les conditions, la difficulté, des personnes aussi qui ont besoin d'un accompagnement extrêmement important. Donc tout ça est assez compliqué et se résout pas juste en termes quantitatifs. Il y a vraiment une question de qualité. Quand on dit que des bénévoles ne viennent plus, là encore, c'est un problème de management. Parce que les bénévoles, en effet, et c'est très important qu'ils soient présents et qu'ils puissent venir, parce qu'ils contribuent aussi à améliorer les choses, à fluidifier les choses et à rendre justement les animations, la vie. Parce qu'il y a un projet de vie normalement derrière. Sauf que le projet de vie, il est difficile quand la majorité des résidents sont des gens qui sont en très très grande difficulté, ou neurologique ou physique. Donc il y a aussi toutes ces difficultés-là à prendre en compte.
Et bien sûr, je tiens à préciser, il n'est pas question de viser telle ou telle EHPAD, telle ou telle marque, entreprise. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette émission, ni de viser le personnel, mais plutôt de mettre en évidence certaines situations soulignées par vous, Serge Guérin, ou par vous, Singhasin Buanjohani, et bien sûr par les auditeurs. Singe, justement, je me retourne vers vous, puisque des témoignages comme celui d'Yves qu'on a entendu, vous en avez entendu, vous aussi, ça fait partie de ce que vous avez pu enquêter.
Alors, en fait, notre équipe a mis en place une enquête entre 2021 et 2023. Ça a été financé par la CNSA, donc Caisse Nationale Solidarité pour Autonomie. Ce qu'on a constaté, c'est en effet, il n'y a pas que l'effet de Fossoyeur, mais il y a un effet Covid. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le Covid et après le Covid, ce qu'on constate, c'est le turnover a vraiment largement aggravé. C'est-à-dire les établissements ont du mal vraiment à recruter. Le premier poste qui est en difficulté, c'est le poste médecin. Et par la suite, c'est les paramédicaux. C'est-à-dire ce qu'on constate, c'est par exemple entre 30 et 50% des EHPAD n'arrivent plus à trouver de médecin coordonnateur. C'est-à-dire c'est pas un médecin soignant, c'est un médecin coordinateur qui coordonne un peu les soins médicaux paramédicaux. Et je dirais entre 30 et 50% des EHPAD qui sont même sans médecin. Puis les paramédicaux, en effet, c'est les directeurs, ils ont beaucoup de bonne volonté, ils font appel aux hôpitaux, aux réseaux et tout, personne. Derrière, il y a une question d'attirance, enfin, l'attractivité de métier. Pourquoi ces gens ne veulent pas venir? Enfin, grosso modo, il y a quand même une question de prestige. C'est-à-dire, dans leur monde professionnel, le plus prestigieux, les postes plus prestigieux, c'est quand même dans les hôpitaux. Donc, les EHPAD, en effet, c'est pas attirant, à la fois en termes prestige et aussi en termes de rémunération. Tout ce qui fait que, en fait, on a un gros problème pour le côté médical. Sachant que c'est un endroit pour accueillir des personnes âgées très dépendantes qui ont besoin de soins. Oui. Ce qu'on voit, c'est en effet, c'est avec l'augmentation de technicité, on a de plus en plus de difficultés, une difficulté de recrutement. C'est-à-dire, pour les agents de service, c'est un peu plus facile, je dirais. Et aides-soignants diplômés, déjà compliqué, infirmiers, oui, très compliqué, oui. Et par la suite, médecin, c'est pratiquement devenu impossible. Et un autre point que je souhaite rajouter, c'est aussi le moyen de tâche, âge moyen des médecins coordinateurs en EHPAD. Ce qu'on constate, c'est l'âge moyen, c'est environ 50 ans.
Et par rapport à un hôpital ou par rapport à d'autres
institutions, 10 ans de plus.
10 ans de plus. C'est... Donc il y a un vieillissement
C'est ça. Et nos enquêtés médecins coordonnateurs commencent à s'inquiéter. En fait, dans les EHPAD, ça n'attire plus les jeunes. C'est surtout les médecins retraités qui se font réembaucher par les EHPAD, qui viennent travailler auprès des aînés. Et il y a un vrai problématique dans les EHPAD, en fait. Comment on va pouvoir attirer les médecins de demain, les gériatres de demain? Comment on va pouvoir les attirer dans les EHPAD?
Après Yves, nous avons Pierre au 04 72 38 20 23. Bonjour Pierre.
Et bonjour Melchior. Oui, alors pour mon cas, les circonstances ont fait que mon épouse et moi nous sommes retrouvés dans une EHPAD il y a 2 mois. Parce que mon épouse a été opérée et puis moi, simultanément, on m'a découvert un cancer. Ça fait beaucoup pour revenir à la maison et avoir tous les soins. Donc, nous sommes dans une EHPAD et c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais, évidemment, après le choc de ne plus être chez soi, nous nous y trouvons bien. Nous nous y trouvons bien parce que le personnel est accueillant, bienveillant, on y mange bien. Et comme j'ai passé un mois avant à l'hôpital, j'ai pu comparer, c'est vraiment la nuit et le jour. Alors, et je disais d'ailleurs, je discute beaucoup avec le personnel, que ce soit les infirmières ou les aides-soignantes, ou même le personnel de cuisine, je leur dis, chez vous, je trouve des pépites d'humanité, dans une humanité qui a de moins en moins d'humanité, au sens général. Et donc, je souhaiterais qu'on valorise tout ce personnel. Bien sûr, ils sont peut-être pas tous pareils. Moi, je ne peux parler que de ce que je vis actuellement. Mais ce sont des métiers. Et autant quand on est extérieur, on entend parler, mais bon, ça nous intéresse moyennement. Autant quand on est concerné, on réalise les qualités humaines de ces gens qui nous soignent avec une patience infinie. Une patience infinie. Moi, j'ai carrément vu des résidents aussi presque insulter le personnel. C'est catastrophique. Parce que là, il faut... Les résidents ont aussi une responsabilité, les résidents dont je suis. Hein. Et c'est un peu... Leur vie, on dit toujours qu'on vieillit comme on a vécu. Des gens qui n'ont pas eu le sens de la relation dans la vie. Mais comment voulez-vous qu'ils le retrouvent lorsqu'ils sont en EHPAD? Donc, je veux dire, en résumé, que tout le personnel soignant, encore une fois, dans l'établissement dans lequel je suis... je leur tire mon chapeau parce que ils sont d'une bienveillance, d'une patience. Moi, je crois qu'à leur place, je n'aurais pas cette patience pour supporter tout ce qu'ils supportent.
Merci Pierre, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ça faisait longtemps que je vous avais pas entendu dans cette émission. Pourtant, vous êtes un auditeur fidèle depuis de très nombreuses années. Donc, c'est sympa aussi de vous avoir entendu. On vous souhaite beaucoup de courage à vous et votre épouse. Serge Guérin, je me tourne vers vous après ce témoignage de Pierre, parce que c'est vrai, on l'a dit, tout n'est peut-être pas tout rose dans les EHPAD, mais tout n'est pas noir non plus. Il se passe des choses. Peut-être positive, joyeuse, il y a encore de l'humanité.
Oui, le témoignage de Pierre était hyper important et en effet ce mot d'humanité il est hyper fort. Les femmes très 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 majoritairement qui sont en lien le plus direct, ce sont les auxiliaires de vie, ce sont les aides-soignantes. C'est vraiment là où ça se passe, c'est elles qui passent le plus de temps avec les gens. les toilettes, la discussion. Et donc, en effet, beaucoup de ces personnes, si elles sont là, parfois elles sont venues par hasard, mais si elles y restent, comme on dit, elles n'y restent pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et elles prennent du plaisir, elles aiment ce qu'elles font et elles sont, pour le coup, très valorisées quand le directeur sait le faire et quand, en effet, Pierre a parfaitement raison, il y a aussi les résidents. Alors, les résidents, oui. On ne peut pas leur en vouloir quand ils sont avec des bouleversements neurologiques parce que, voilà, ils ont perdu beaucoup de choses et donc leur rapport est très, très différent. Parfois, il est formidable, parfois, il est beaucoup plus difficile. Il y a les familles aussi. Les familles, souvent, elles sont aussi dans des logiques très, très consommatrices. Il y en a même qui pensent que parce que leur proche est dans cet endroit-là, il va aller mieux dès le lendemain. Ça marche évidemment pas du tout comme ça. Donc, il y a aussi une question de civilité, je dirais, de l'ensemble de la population. Mais ça, c'est vraiment un élément extrêmement fort. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très puissant qui se passe et qui est difficilement mesurable. Hein. C'est pas du quantitatif. C'est la relation humaine. Et bien sûr qu'il y a des gens plus ou moins doués pour cela. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à la personnalité. Après, il y a évidemment les questions techniques, oui. Les compétences techniques. Il y a d'abord une compétence humaine à mettre en avant.
Et ça, on va continuer d'en parler ensemble avec vous deux, Serge Guérin et Tingsin Bonjoani, avec également vos témoignages au 04 72 38 20 23. Vous avez un proche dans un EHPAD ou vous êtes en EHPAD actuellement. Dites-nous comment ça se passe. Qu'est-ce que vous constatez? Et puis, pareil, si vous êtes employé, si vous êtes membre du personnel, on attend vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Est-il possible de rétablir la confiance dans les EHPAD? Et si oui, comment faire? On en discute avec nos deux invités jusqu'à 10h, également avec vos témoignages au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir.
mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Nos plus belles années, c'était Grand Corps Malade et Kimber Rose pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
On parle des EHPAD ce matin avec nos deux invités. Serge Guérin, je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de la vieillesse et directeur scientifique du pôle santé de l'INSEC. Également auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier s'intitule « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» Il est sorti chez Michalon. Et puis Tsingue Sinbonjohani, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille, membre du CLERCE, le centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques, également chercheuse affiliée au CEE. ET, Centre d'études de l'emploi et du travail. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi parce que vous avez mené avec votre équipe une vaste enquête de terrain, notamment pour mettre en évidence les questions de l'emploi et du personnel dans les EHPAD. Isabelle, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'appelais donc pour dire, je me suis occupée de ma grand-mère donc, qui était en EHPAD il y a quelques années, et puis là j'ai mon papa qui est en EHPAD maintenant. Et y a un point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est le fait que les établissements qui accueillent nos anciens, en fait, ferment de plus en plus tôt, enfin, à la visite. C'est-à-dire qu'il y a certains établissements où on peut rendre visite à nos parents jusqu'à 17h30 ou 18h. Et du coup, je trouve qu'on est un peu privé de visite si on travaille. Je vois mes enfants ne peuvent pas rendre visite à leur papy du fait de ces horaires. Donc je trouve que ça isole un petit peu les personnes âgées. Ça, c'était le premier point que je voulais signaler.
Oui.
Parce que à l'époque de ma grand-mère, je me souviens, j'avais possibilité de lui rendre visite jusqu'à 19h. Donc c'était beaucoup plus facile. Donc là, j'ai aménagé mes horaires personnels pour pouvoir rendre visite à mon papa, en fait. Et puis je voulais signaler aussi que c'est à partir du moment où parfois du fait du manque de personnel justement à partir du moment où la personne âgée a un petit souci de santé, je vais vous prendre l'exemple, hein, mon papa a attrapé un virus il y a quelques temps et en fait il était autonome en temps normal mais là avec ce virus il était très très faible. Et donc, il n'avait pas possibilité de se lever tout seul, de manger tout seul, enfin, etc.
Oui.
Et en fait, il se trouve que peut-être que son cas avait été mal évalué. Mais en fait, quand j'arrivais à peu près vers 2h moins le quart, 2h de l'après-midi, je trouvais son plateau tout froid sur une table avec les médicaments qu'il n'avait pas pu prendre. Et du coup, j'assurais le relais, évidemment, je lui donnais à manger, je lui donnais ses médicaments. Mais ce qui m'a, en fait, je vais dire, astreinte à venir tous les jours, parce que le temps où il était malade, ouais. Parce que j'avais un problème de confiance.
Voilà, problème de confiance et ça a du sens d'en parler maintenant. Et merci beaucoup Isabelle, je me permets de couper votre témoignage parce que on a encore beaucoup de choses à évoquer. Il y a également plusieurs appels. Tsingue Sinbonjohani, ce qu'on entend à travers le témoignage également d'Isabelle à l'instant, c'est qu'il y a des attentes, bien sûr, de la part des résidents, mais aussi des proches, des familles, des aidants, des attentes qui augmentent d'après vous, qui sont de plus en plus exigeantes.
Alors, je ne dirais pas que les attentes augmentent. En revanche, les attentes, c'est pas des attentes, c'est aussi une sorte de vigilance, attention, c'est en croissance, justement depuis l'affaire Fossoyeur. Ça, c'est ce qu'on constate sur le terrain, c'est les familles deviennent de plus en plus vigilantes. En même temps, ça pourrait être une bonne chose, c'est-à-dire ça pourrait aussi créer plus de liens avec les résidents. En revanche, ça n'arrange pas dans le contexte actuel de manque du personnel, difficulté de recrutement ou l'attractivité du métier. C'est-à-dire que en effet, derrière les attentes, c'est aussi les charges de travail. Et quand on est en manque de personnel, au bout d'un moment, en effet, on n'arrive plus à tout faire. Donc, ce qu'on constate, c'est des EHPAD en difficulté ou des équipes de travail en difficulté. Les soignants se culpabilisent ou les soignants sont obligés de travailler, faire des heures sup sans être payés parce que elles ont l'impression de ne pas avoir pu faire leur travail correctement. Donc ça c'est un constat qu'on a beaucoup vu sur le terrain. Si je me permets de revenir très 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 rapidement sur le témoignage Pierre, que je trouve vraiment très très précieux,
oui.
Parce que je trouve il est très très important de médiatiser également les éléments positifs du travail en EHPAD. C'est-à-dire en critique énormément, mais on a tendance à vraiment parler très peu les difficultés de travail ou les éléments positifs de ce travail. Puisque le care ou le travail, c'est quand même un travail humain, c'est un travail passionnel. C'est-à-dire que les soignants ne sont pas là pour l'argent. Elles sont là, en effet, derrière, il y a souvent une passion, il y a souvent cette logique altruiste, c'est-à-dire elle a envie d'aider les autres. Généralement, quand on fait l'enquête, ce qu'on entend, c'est j'ai choisi ce métier parce que j'aime bien la relation sociale, j'aime bien aider les autres, j'aime bien me rendre utile. Alors, ce sont des choses qu'en fait, qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis, il y a vraiment ce qu'on voit beaucoup, c'est ce côté altruiste. Elles ont tellement envie de bien faire leur travail. En fait, le témoignage d'Isabelle, en fait, derrière, les soignants pourraient vraiment, c'est-à-dire, prendre pour elles, se culpabiliser parce qu'elles n'ont pas pu. Mais au bout d'un moment, il n'y en a pas assez de personnel, quoi.
Un problème de personnel qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure, Serge Guérin, avec peut-être un manque de motivation, d'envie, et puis peut-être une mauvaise publicité aussi, ça a joué un vrai rôle, ça?
Oui, ça a pas aidé. On va pas se raconter d'histoire. Ouais. Mais c'est vrai, il faut aussi dire alors que les familles sont en effet plus demandeuses. Aujourd'hui, suite Covid et suite du livre, les familles aussi, parfois, celles qui sont parfois les plus ennuyeuses, sont pas toujours celles qui sont les plus présentes. Il y a aussi, la dame expliquait qu'elle venait tous les midis, ce qui est pas évident, hein. Si vous habitez à des centaines de kilomètres, par exemple, c'est pas si simple que ça. Mais il y a aussi des gens qui laissent un peu le proche tout seul, quoi. Donc, d'ailleurs, dans l'histoire Orpea, on pouvait aussi s'étonner de certaines découvertes de gens quand même qui mettaient beaucoup de moyens, qui payaient très cher la résidence, qui avaient des statuts sociaux très très élevés et qui n'avaient pas suivi le fait qu'on ne s'occupait pas très très bien de leur mère, par exemple. Donc il y a aussi, c'est pas seulement les autres, c'est aussi soi. Il y a aussi le fait de ne pas être présent. Dans les EHPAD, il y a ce qu'on appelle les CVS, les conseillers de la vie sociale, qui sont obligatoires. Qui sont ou des gens, des proches, ça peut être des habitants, des résidents des maisons de retraite ou des proches qui sont à ce conseil-là. Or, dans beaucoup d'EHPAD, on n'arrive pas à trouver des familles pour être présentes. Donc, c'est pas que les méchants. Il y a aussi, entre guillemets, dans les familles, aussi des gens qui ne s'impliquent pas beaucoup, voire qui ne s'impliquent pas du tout. Hein, donc, faut, voilà, là aussi, il y a une responsabilité, on pourrait dire, assez collective. Donc, il y a cet élément-là. Il y a l'élément, en effet, qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent et que ces personnes-là sont souvent, ont une image, parfois, elles-mêmes d'ailleurs, dégradées, de se dire, mais je ne fais pas assez, mais j'ai une mauvaise image. Ainsi de suite. Mais il y a aussi une très très bonne image. Il y a aussi des gens qui disent mais c'est extraordinaire ce qu'elles font. D'ailleurs, il faut être très très honnête. Est-ce qu'on le ferait nous? Voilà. C'est un métier hyper difficile. Voilà. Et on se dit c'est pas si simple que ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont aussi des métiers où on peut, si on a envie, si on travaille, si on en a la capacité, sur lesquels on peut progresser. On peut partir de, entre guillemets, de tout en bas. Et finalement, de monter, de se retrouver infirmier, et d'infirmier même se retrouver directeur. Ces choses-là ne sont pas du tout exotiques. Elles arrivent assez fréquemment. Donc ça aussi, assez fréquemment, je ne vais pas dire qu'elles arrivent tous les jours, hein, mais voilà, mais il y a aussi des parcours qui sont assez forts, assez impressionnants. Et puis il y a des parcours tout simplement de vie. J'étais à tel endroit, je suis allé travailler sur tel autre secteur, ainsi de suite. Donc on voit aussi qu'il y a cette réalité-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que souvent, par exemple aujourd'hui, pour les IFSI, donc pour les écoles d'infirmières, on y rentre post-bac. Et parfois, ça a été dans une demande comme ça. Et souvent, les gens ont une représentation à travers, par exemple, des séries télévisées ou autres, qui sont souvent assez, c'est pas nécessairement Grey's Anatomy, quoi. Et que donc, dans certains cas, il y a aussi un décalage entre l'imaginaire et la réalité. D'où d'ailleurs l'importance des premiers stages et ainsi de suite. Et des gens, par exemple, qui découvrent que les vieux, c'était pas du tout leur truc. Puis finalement, ils découvrent quelque chose de très, très puissant. Puis d'autres, ça va être un autre secteur. Et aussi la possibilité de changer, de pas faire nécessairement 40 ans de vie professionnelle dans le même domaine. Donc il y a aussi toutes ces réalités-là à sans doute à mieux valoriser et à mieux soutenir.
Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie à faire entre les établissements? Parce que je crois tout à l'heure, c'est vous, Singe, vous parliez de... Vous avez dit que les médecins qui ne travaillaient plus dans les EHPAD, c'était à cause du manque de prestige. Je me trompe peut-être dans l'utilisation des termes, mais ça a surpris d'ailleurs une auditrice, un médecin qui nous a dit « mais le médecin n'est plus valorisé dans la société, parler de prestige comme si c'était un anti et non une profession qui souffre ne fait que qu'augmenter le dog bashing et renforcer une fausse image qui nuira d'autant plus aux futurs médecins. » Qu'est-ce que vous en pensez, Singe?
Alors, en effet, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est dans le monde des médecins. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, les spécialités sont hiérarchisées. Si je souhaitais dire ça, c'est-à-dire qu'en effet, dans le monde des médecins, par exemple, il y a des spécialités prestigieuses, comme par exemple le chirurgie, ces spécialités sont plutôt prestigieuses. Il y a aussi des spécialités moins prestigieuses ou moins estimées, par exemple gériatrie, par exemple médecine générale, et aussi la pédiatrie, par exemple, c'est un peu tout en bas de l'échelle. Et dans ce monde-là, en fait, sur les types de postes, le monde hospitalier, c'est quand même plus prestigieux que les EHPAD. Donc il y a cette chose-là, mais c'est toujours dans le monde des médecins, c'est dans le monde professionnel des médecins. En revanche, une fois on sort le champ médical, il y a effectivement une question de rôle ou la place des médecins dans la société. Ça, c'est encore une autre question.
Ouais. Priscille, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci. Bonjour, vous êtes à Meudon, allez-y.
Oui, voilà. Donc mon témoignage, c'est ma tante qui a été... c'était un service d'EHPAD dans un hôpital qui, je crois, a depuis a fermé, qui était sur la fermeture à Villiers-le-Bel. Et j'avais constaté que c'était qu'il y avait des problèmes de manque d'hygiène. À la fin, ma tante était elle pouvait plus se déplacer, donc elle circulait. Il fallait utiliser un petit fauteuil roulant. Et il y avait par exemple le gilet qui était sur le petit marchepied en dessous, enfin, et qui traînait à moitié par terre. Ou même si le gilet tombait un petit peu du
fauteuil,
visiblement, ça ne posait pas de problème. Ensuite, ma tante, elle avait toute sa tête et elle avait son franc-parler. Elle disait les choses comme elles étaient. Et en fait, ça ne plaisait pas. Je suis arrivée une fois. Visiblement, il s'était passé quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est que les personnes sont en grande dépendance. Elles sont, à partir du moment où elles rentrent dans ces lieux-là et qu'elles ne perdent leur autonomie petit à petit, elles sont en dépendance et elles ont intérêt à trop rien dire si, entre guillemets, elles veulent être bien soignées.
Ah oui.
Voilà. Et puis...
Donc comme s'il y avait un rapport de force, finalement.
Oui, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force qui se joue. C'est comme si, en fait, c'était des personnes qui redevenaient comme des petites pensionnaires, ouais, complètement dépendantes, entre guillemets, des lois internes qui sont dans cette structure. C'est une structure très fermée.
Et qu'il faut être gentil, voilà. Sinon on va au coin. C'est un peu ce qu'on entend, Priscille. Merci beaucoup. Alors c'est difficile parce qu'on est un peu au cas par cas ce matin. On peut pas généraliser, mais pourtant ça reste quand même passionnant d'entendre les différents témoignages. Serge Guérin, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, ça, d'ailleurs, hein, dans les commentaires un peu négatifs. C'est ce rapport de force, de pouvoir un petit peu entre le personnel d'EHPAD. Attention, je généralise, hein. Bien sûr, ce n'est pas, je ne parle pas pour tous les EHPAD. Et puis les résidents, c'est un peu... Voilà, il faut filer droit, il faut surtout pas commenter ou être désagréable, sinon on est mal soigné. Est-ce que on peut être aussi binaire que ça ?
Non. Alors, d'abord, on rappelle, hein, il y a à peu près 7500 EHPAD.
Oui.
Et ça fait à peu près 700 000 personnes qui sont accueillies dans ces lieux. Et c'est vrai qu'il y a une très très grande diversité. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que il y a aussi, ça s'appelle des rapports de force. Ça s'appelle le fait qu'aussi on est dans des sociétés qui n'ont pas tendance à valoriser spécialement la fragilité. Donc quand vous êtes, voilà, mais en même temps, il y a d'autres fragilités. Par exemple, vous pouvez vous sentir peu dans la hiérarchie tout en bas. Vous pouvez vous considérer que vous n'avez pas eu des grands diplômes, ainsi de suite. Et d'une certaine manière, pour certaines personnes, il y a comme une forme de revanche. Parce que vous avez en face de vous un résident qui a peut-être eu une vie considérée plus facile que la vôtre, avec peut-être des revenus supplémentaires, ainsi de suite. Et là, d'une certaine manière, vous prenez un petit peu votre revanche. Donc c'est vrai que ça peut évidemment arriver, parce que les êtres humains sont des êtres humains. Voilà, donc il y a ça. De l'autre côté, il y a aussi évidemment des résidents qui peuvent être extrêmement ennuyeux, pour ne pas dire autre chose. Donc tout ça existe. On est dans des rapports humains, simplement avec une différence très très forte. C'est qu'il y en a qui n'ont pas les moyens physiques, d'une certaine manière, de réagir face aux autres. Et donc, d'où l'importance aussi des familles, d'où l'importance des cercles éthiques, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'endroits où on est attentif à tout cela, où on en discute, où il y a des moments où il y a des discussions avec l'ensemble du personnel, où il peut y avoir des discussions avec le CVS, encore une fois, ou avec des gens de l'extérieur et autres. Il y a aussi tout ça qui est en jeu. Et d'où l'importance aussi de rappeler, madame tout à l'heure intervenait en disant elle ne peut plus venir après 18h30. Normalement, ces lieux sont des lieux ouverts. On peut y venir plus tard. Alors évidemment, c'est pas simple d'y arriver à minuit, parce que d'abord les gens dorment, et ainsi de suite, parce qu'il y a moins de personnel et autres. Mais ce sont des lieux où normalement, ils sont relativement ouverts. Ce sont pas des lieux fermés. La personne dans sa chambre, elle est chez elle. Hein, donc il y a tous ces éléments-là à reprendre en compte. Et là encore, c'est beaucoup la responsabilité de la directrice ou du directeur. C'est le directeur qui est là et qui doit aussi porter ce regard, cette vision, cette approche avec le collectif qui est formé. Et donc, encore une fois, c'est beaucoup lié aux êtres humains. Mais c'est vrai, et de l'autre côté, il y a une notion comme ça, souvent un petit peu de consommateur. J'ai droit à. Et c'est vrai que les nouvelles générations qui vont arriver dans ces établissements seront souvent des gens, là encore, souvent de plus en plus abîmés, puisqu'elles essaieront de trouver d'autres solutions avant, elles n'auront pas envie, ou aussi pour des raisons financières. C'est très coûteux aussi. Si vous êtes pas, si vous êtes à l'aide sociale, ça va. Comme assez souvent dans ce pays, c'est un peu les classes moyennes qui sont dans la plus grande difficulté. Les gens qui ont vraiment peu de revenus, heureusement, il y a l'aide sociale qui leur permet d'accéder à ces établissements. Les autres, voilà. Et les autres, ça leur coûte aussi très cher. Ce qui fait qu'aussi, dans certains cas, on a tendance à reculer pour des raisons psychologiques. On ne veut pas y aller. Ou pour des raisons aussi économiques dans certains cas, on se dit voilà, ça va pas être possible par rapport à ma retraite et ainsi de suite.
Alors ça passe très très vite, une heure, je vois que le temps file très très vite. Pourtant voilà, on a quand même posé le décor, on a pris le temps de regarder un petit peu les dysfonctionnements dans certains EHPAD, ce qu'on pouvait en tirer en tout cas. Ce qu'on note, c'est qu'il y a quelques améliorations, quelques perspectives. Tsingus Nbonjuani, je vais me tourner vers vous parce que dans votre enquête aussi, l'idée c'était de se dire bah voilà, qu'est-ce qu'on constate en moins bien, en bien, quelles perspectives il y a. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 2022, depuis la sortie de ce livre Les Fossoyeurs, il y a eu vraiment des améliorations, peut-être on parlait du personnel, mais dans les conditions de travail, dans la formation du personnel, et puis aussi une mise en place de contrôle, des mesures de transparence?
Alors, pour l'instant, je ne dirais pas d'amélioration du point de vue de l'enquête de terrain, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est depuis, il y a aussi le Covid et aussi l'inflation. Du coup, les établissements sont plus en difficulté financière. Donc là, en fait, nos EHPAD sont en train de couler. Je dirais, presque la moitié sont dans le rouge. Enfin, financièrement, c'est les dernières données que j'ai eues. Et là, ce qu'on constate, c'est aussi la vague de démission des directeurs. Donc en fait, les directeurs, le turnover des directeurs est très très important. En revanche, ce qui est bien, c'est les pouvoirs publics, l'État, donc la CNSA, ils sont conscients de tous ces problèmes. C'est-à-dire, il y a une conférence organisée par la CNSA qui parle justement de toutes ces difficultés, qui parle de l'attractivité de métier et qui réfléchit, en train de réfléchir. Je pense qu'il est très très important, c'est vraiment d'améliorer l'attractivité du métier, c'est-à-dire vraiment la question de formation, vraiment la question de, et aussi revalorisation salariale et aussi la reconnaissance sociale de ces métiers-là. Donc ça, c'est, si on ne règle pas ces problèmes-là, difficile d'améliorer les conditions de travail, parce que tant qu'on n'a pas de personnel, tant que personne ne veut rester, on peut difficilement parler d'amélioration concrète.
Oui. Que doit faire l'État, Serge Guérin? Là aussi, on va se parler franchement. Quel doit être le rôle du gouvernement dans cette gestion des EHPAD, alors public, privé, des établissements plus généralement?
Alors, vaste question. Premier élément, c'est vrai que, en particulier dans le public associatif, il y a souvent de grandes difficultés. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des structures comme Enéal qui sont liées à Action Logement, vous voyez, donc le monde HLM, qui viennent reprendre les murs. Parce que les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale, n'arrivent plus à financer. Et donc, de la même manière que l'État a demandé au privé de venir, parce qu'il ne voulait plus mettre d'argent pour développer de nouveaux établissements, parce qu'il faut rappeler que le privé est venu, parce que l'État leur a dit, venez, nous on ne va pas mettre d'argent. Hein, donc il y a un choix qui a été fait, qui est tout à fait, qui peut s'expliquer, mais en tout cas c'est un choix qui a été fait de dire, l'État mettra moins d'argent sur ces sujets-là. Donc le privé arrive d'un côté, et là aujourd'hui, il y a plein d'organisations qui disent, venez nous aider. Et donc là, ils se tournent par exemple vers le monde HLM. Donc il y a vraiment un besoin de moyens. Donc à l'État, je dirais, à l'État doit... Mais après, ça s'appelle des choix politiques. Est-ce que l'accompagnement des plus âgés, est-ce que c'est une priorité ou pas? Est-ce que dans toutes les priorités qu'a l'État, parce qu'évidemment il y en a plein, y compris sur la question sociale, c'est souvent lié aux départements, mais les départements aujourd'hui ils doivent accueillir par exemple ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, des gens étrangers qui sont mineurs ou pas, d'ailleurs ça c'est un autre sujet. Voilà. Et donc ça leur coûte par exemple une fortune. Il y a plein de coûts qui augmentent. Et donc du coup là-dedans, qu'est-ce qu'on fait de la question de la vieillesse? Donc est-ce que c'est une priorité ou pas? Voilà, c'est un vrai, et finalement c'est un choix politique. On pourrait voter dessus, hein. Après tout, voilà. Est-ce que dans les programmes, est-ce qu'on l'a vu souvent comme étant quelque chose de très très visible, que ce soit d'ailleurs dans les programmes nationaux, aujourd'hui ce sont les européennes, mais ou dans les programmes locaux, est-ce que cette question-là, elle est très très visible ou pas? C'est aussi à nous électeurs, après tout, de dire est-ce que c'est important pour nous ou pas. Donc je dirais que à nous de pousser. Je dirais aux fesses, pour rester poli, l'État, si on le souhaite, a plus agir sur ces éléments-là. Voilà. Ça, c'est vraiment un élément majeur. L'autre élément majeur, c'est de comprendre que les formations sont hyper importantes. Comment, là aussi, on renforce l'attractivité des métiers. Moi, je préside le conseil scientifique de la Fondation Cannes, qu'on a complètement centré sur les métiers. En disant sur l'envie de ces métiers, sur la valorisation de ces métiers. Parce que on pourra faire toutes les réformes du monde, s'il n'y a personne pour aller y travailler, ça ne marchera pas. On voit bien que c'est une question, bien sûr, de salaire, bien sûr de revenus. Mais il y a quelque chose de bien plus fort que ça, qui s'appelle les imaginaires, qui s'appelle les progressions, qui s'appelle l'accompagnement de ces personnes. Par exemple, il y a les EHPAD où on va organiser des systèmes de crèches pour pouvoir accueillir les enfants de ces femmes qui, parfois en plus, sont seules à élever les enfants. Par exemple, ça va être la question des transports, ça va être la question de l'habitat. Il y a tout ça à travailler. Et ça se fera, je crois, au niveau le plus local qu'il soit. C'est là où ça se passe, parce que les gens, ils habitent pas trop loin de là où ils travaillent, par exemple, quand ils sont dans le monde rural. Mais ils ont besoin parfois de prendre des transports, une voiture, et ainsi de suite. Il y a toutes ces questions-là à poser, qui sont des questions bien plus larges, mais qui, à mon sens, se passeront au niveau local, avec les communes, avec les départements en particulier.
Donc, voilà, c'est ce qu'on entend, une vraie question autour de l'emploi. Et il y a eu aussi alors des améliorations, en tout cas des changements au niveau de la communication, du changement d'image aussi des EHPAD. Orpea qui a changé de nom en s'appelant Emeis, c'est un exemple, c'est aussi un moyen, Tingus in Boan Joani, de mettre la poussière sous le tapis, d'écrire une nouvelle histoire. Mais est-ce que ça va suffire?
Pas du tout, enfin de mon point de vue pas du tout. En fait, c'est si on passe par les moyens de communication en changeant de nom, c'est pas du tout ça ce qu'il faudrait s'attendre. C'est plutôt vraiment réformer un peu le travail, revoir un peu la division de valeurs. Enfin, il y a des choses plus profondes à revoir.
D'impliquer un peu plus aussi les familles et les résidents dans la gouvernance des EHPAD. Est-ce que ça peut être une idée?
Alors, on était déjà sur ce chemin-là. En effet, il y a une particularité qu'on n'a pas évoquée dans ce secteur-là. C'est, contrairement au secteur du handicap, où les familles sont hyper mobilisées, sont hyper engagées dans des décisions politiques et tout. Alors, dans le secteur personnes âgées, ce sont des professionnels qui militent pour les résidents. Ça, c'est un constat qu'on fait depuis 20 ans, en effet. C'est ce qu'on constate, c'est tant que les personnes sont dans les EHPAD, les familles sont mobilisées, une fois la page tournée, en fait, les familles se détachent. Donc, on a du mal à avoir un engagement politique long terme. Donc, je pense que c'est aussi un élément à mobiliser, c'est vraiment d'impliquer les familles de façon plus à long terme. À court terme, il n'y a pas de problème, mais ce qui est problématique, c'est à long terme. Alors, une autre chose, c'est les pouvoirs publics en ce moment sont en train de réfléchir sur des pistes un peu autres, c'est-à-dire habitat, autre type d'habitat. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra laisser de côté le modèle d'EHPAD? Personnellement, je crois pas, parce que en effet, c'est quand même un modèle médicalisé. Dans tous les cas, il y aura toujours des personnes, vers les trois dernières années de vie, ils ont besoin de ce type de structure. On peut pas complètement remplacer par un autre. Donc là, il y a vraiment un travail de fond, pas seulement de communication, mais vraiment des questions de reconnaissance du travail. C'est-à-dire, on pourra jamais avoir le même service en EHPAD qu'à domicile. C'est pas le même ratio de personnel.
Et ben voilà, écoutez, c'est sur ces mots qu'on va finir, avec quelques perspectives, un peu d'espoir aussi, pour essayer de rétablir la confiance. Merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission, c'était très intéressant. Serge Guérin, je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de la vieillesse, directeur scientifique du pôle santé de l'INSEC, auteur de plusieurs ouvrages, et donc le dernier à lire chez Michalon, il est sorti cette année, et si les vieux aussi sauvaient la planète. Merci beaucoup Serge Guérin d'avoir été avec nous. Tsinge Sinbonjohani, merci également pour votre participation. Merci à l'équipe de Lille qui vous accueillait, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille, chercheuse affiliée au CEET, le Centre d'études de l'emploi et du travail. Dans la seconde partie de Je pense donc j'agis, on va essayer de d'établir des liens intergénérationnels et des liens relationnels, surtout dans les EHPAD, avec quelques initiatives qu'on va vous présenter et bien sûr avec les vôtres. Dites-nous comment vous faites avec vos proches. Et si jamais vous êtes résident en EHPAD, dites-nous aussi comment ça se passe au 04 72 38 20 23. À tout de suite.